Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morency en ligne pour cette 10e épisode, déjà 10e podcast. La saison est encore jeune et on est déjà rendu là, donc bien content. Merci à tous les fans, à tous les auditeurs du podcast de nous rejoindre. Et je me suis dit que pour cette 10e épisode, pourquoi pas faire un peu de changement, un peu de nouveauté. J'ai décidé donc de faire collaborer avec moi sur ce 10e podcast un auditeur assidu du podcast, une personne également avec qui j'aime beaucoup intervenir sur les réseaux sociaux, principalement la plateforme Twitter. Vous le savez, c'est la plateforme de prédilection pour le podcast. Donc, Amine Sabri qui est là avec moi ce soir. Bonsoir Amine, ça va bien?
Ça va très bien, Jeff, et toi?
Oui, ça va super bien. Je veux, Amine, dans un premier temps, qu'on fasse un retour sur le dernier match, un petit retour rapide. On a déjà fait un podcast là-dessus, mais j'étais au déplacement avec les Ultras. Tu l'étais également. Expérience générale, comment t'as trouvé?
Très positif. Honnêtement, il y avait beaucoup d'ambiance tout le long pour se rendre sur place, puis au Yankee Stadium, en général, je dirais que l'expérience est belle, c'est juste le stade qui suit pas. C'était assez drôle à un certain moment donné, quand le jeu était de l'autre côté de où est-ce qu'on était. Il y avait le jardinier qui est rentré pour enlever des mottes de gazon avec son téléphone cellulaire. Fait que ça, c'est assez ordinaire. On voit pas ça souvent dans des stades de soccer. Mais sinon, on peut dire que le match était très ordinaire, mais le résultat était bon pour l'Impact. Puis c'est ça l'essentiel, surtout après une défaite de 7-1. D'avoir une bonne assise défensive, c'est l'essentiel, de retrouver une confiance défensive. Puis je pense que avec le duo Diallo-Raitala, ça a été le cas. On a été vraiment très solide défensivement.
Parce que je pense que c'est un petit peu ça. Hein? L'Impact a subi là, une défaite humiliante, 7-1 face au Sporting Kansas City. Donc, ce qu'on souhaitait voir, dans le fond, c'était l'Impact retomber sur ses pieds et reprendre un petit peu là, confiance dans sa charnière défensive. On peut dire que pour cette portion-là, c'est un objectif à atteindre. Hein?
Tout à fait. Puis Lovis a joué son meilleur match, selon moi. J'ai trouvé que en première période, il jouait du côté où est-ce qu'il y avait la portion de terrain qui n'était pas praticable. Puis il s'en est très bien sorti. Il essayait des jeux techniques pour sortir la balle. Je l'ai trouvé vraiment impeccable en première période surtout. Puis en deuxième également, il a fait des bons jeux défensifs. Là. Fait que je pense que depuis que Lovitz a été appelé en équipe nationale américaine, ses prestations antérieures n'étaient pas au niveau, je trouve. Puis ce dernier match, c'est la première fois qu'il est revenu à son niveau habituel, fait que c'est quand même rassurant à ce niveau-là. Sagna, il a eu son pire match à Kansas City, selon moi, dans la défaite de 7-1. Il a fait des erreurs qu'on ne le voyait jamais faire. Puis là, à New York, il s'est retrouvé, il a eu un bon match. Donc ça explique le blanchissage. Il faut dire aussi que c'est le premier blanchissage à l'étranger depuis juin 2018. Donc ça fait quasiment un an qu'on n'a pas eu ça. Donc, d'autant plus, après la prestation à Kansas City, là, moi, je trouve que c'est un résultat qui est très satisfaisant.
Je veux également qu'on revienne, Amine, sur la gestion du banc de Rémy Garde. On sait qu'on s'est défendu là, une portion de la rencontre à 10 contre 11. Je pense que ça a fait du bien. Ça a donné de l'air un petit peu sur le terrain qui est relativement petit si on compare à la surface habituelle. On aurait pu croire que, suite au carton rouge de Ruti, on aurait ajouté un peu de mordant à l'attaque. Certains s'attendaient à voir Anthony Jackson-Hamel rentrer à ce moment-là. Finalement, on a fait un choix plutôt défensif, mais je pense que c'était une bonne chose, finalement, pour l'Impact, que la gestion que Rémy Garde a faite de son banc en entrant Cabrera à ce moment-là.
C'est sûr que au moment que Rémy Garde a décidé de faire rentrer Cabrera, il était temps parce que nous, dans les estrades, on commençait à sentir la soupe chaude. Ça sentait plus le but de New York City qu'autre chose à ce moment-là. Puis j'ai trouvé que quand Cabrera est rentré, ça a comme stabilisé le tout. Bizarrement, on a mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11. Ça, j'ai de la difficulté à me l'expliquer.
Moi aussi, j'ai trouvé ça. Puis c'est ça, je me demandais si c'était pas justement parce que le terrain, le fait qu'il était petit, peut-être ça, un joueur de moins, ça a donné de l'air un peu, là.
Il y a ça, puis je dirais aussi que, selon moi, encore une fois, Urrutia a connu son pire match dans les couleurs de l'Impact, là. Il était vraiment hésitant. À un moment donné, on se regardait, il y avait le ballon, puis il y avait deux joueurs tout seuls de l'autre côté, puis il a réfléchi trop longtemps, 5 secondes, 6 secondes, il s'est fait chipper le ballon. Des mauvaises décisions, il a couru, il a dérangé comme d'habitude, mais ça n'a pas abouti à des occasions de marquer. Il n'y a pas vraiment créé d'espace pour Novillo ni Orji, ce qui explique en partie leur performance so-so. Et que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de défense depuis le début. Là. Dans ce match-là, c'est la défense qui a tout masqué les carences offensives, surtout qu'avec Cathy qui n'était pas là, il n'y avait pas beaucoup d'étincelles.
Non, c'est ça. Et on aurait pu voir un but en fin de match. Encore une fois, il venait de la part défensif. Zach Diallo qui a manqué, là, c'était presque un penalty, pas de gardien de but.
Oui, tout à fait. C'était plus dur, mettons, de le manquer que de marquer. Mais ça s'explique aussi la fatigue. C'était à 94e minute. Je veux dire, c'est une position dans laquelle un défenseur s'y attend pas forcément. Ça tente pas d'être en aussi bonne position pour, comme on dit, closer le deal, puis d'avoir les 3 points. Puis je pense que c'est l'effet surprise pour Diallo. Il s'attendait tellement pas à être en cette position-là qu'il l'a eu sur son pied gauche, puis il a pas réussi à garder le ballon à terre, puis c'est parti au-dessus des filets de Sean Johnson.
Je veux ton opinion, Amine, aussi sur Saphir Taider qui a recherché a tenté d'aller chercher une faute à l'entrée de la boîte sur un plongeon, là, pas je dirais douteux, mais un petit peu en retard. Je pense que le même plongeon, deux pas avant, ça aurait pu conduire à la faute, mais comment tu as trouvé?
Honnêtement, Saphir, il y a eu un bon match, mais j'ai vraiment pas aimé sa fin de match, sa frustration gratuite, ce sentiment de d'être toujours persécuté par les arbitres. J'ai trouvé l'arbitre correct, honnêtement. J'ai revu l'action d'Urruti, là. C'était un rouge clair, net, précis, on n'en parle pas. Il y avait une faute. Urruti, quand il y a eu le carton rouge, il est sorti, il s'est pas plaint. Il y a personne qui en a reparlé en conférence de presse hier, là, après le match. Donc, moi, ce niveau-là, je trouve pas que l'arbitre, Ted Uncle, il a déjà eu des pires matchs que ça. Puis, j'ai pas aimé le fait qu'au lieu, justement, de rester debout, puis d'essayer de tirer, il y avait de l'espace, il s'est rendu compte, on dirait qu'il devait tomber, mais 2 secondes trop tard.
C'est ça.
Puis après ça, ça l'a frustré. Donc, tout le monde, tu sais, dans les espaces, on le voyait, puis on se disait, OK, si vraiment il t'a touché, ce qui était le cas, en fait. J'ai vu le Maxime Chalmot,
il accroche le bras.
Exact. Il accroche le bras, mais c'était pas volontaire. C'était pas dans le but de le ralentir. Il était juste dans le mouvement de faire son tir. Et puis, ça l'a touché dans le bras. Et lui, ça lui a pris comme 2-3 secondes pour tomber. Donc, évidemment, l'arbitre va pas vraiment dans l'hameçon. C'est assez évident que dans ce genre de situation-là, il y a peu d'arbitres MLS qui vont siffler. Et le fait qu'il reste par terre pour gagner un petit peu de temps à la limite, pas de problème, mais d'être frustré tout le reste du match, puis après le match, il est parti protester. Ça me rappelle un peu Blairine Zemaili, là, ces genres de comportements-là. Donc, je trouve que ça n'a pas lieu d'être, surtout qu'il a eu un très bon match. Il n'y a pas besoin de ça. C'est un bon joueur, il a un bon début de saison. Cette portion de son jeu-là, je trouve pas que ça rajoute quelque chose de plus à l'Impact. On n'en a pas vraiment besoin.
Match de demain, maintenant, l'Impact qui visite le DC United, une bonne formation, une formation de la Conférence de l'Est, donc un rival direct de l'Impact, sans son joueur vedette Wayne Rooney. Moi, ce que je me demande, avant que le match débute, est-ce que le succès de l'Impact, est-ce que le succès du 11 repose sur les épaules, ou je devrais peut-être dire là, sur les pieds de Nacho Piatti? Je pense qu'on a de la misère à créer quelque chose offensivement. Là. Fait que, je me demande, on va-tu être capable de générer collectivement quelque chose de créatif en offensive dans cette rencontre-là, tu penses?
Et justement, dans le dernier match, j'avais remarqué que Novilo, quand il y avait le ballon, on dirait que ça manquait de créativité. Orgy aussi, là, on dirait que le terrain aussi, ça l'aidait pas. Mais on entend souvent no, no piatti, no party. Dans ce cas-ci, on va dire que ça s'annule vu que Rooney est en suspendu.
Ouais.
Fait que moi, je suis un peu plus optimiste qu'à la normale, on va dire, même si on va jouer au Defield, où est-ce qu'ils ont quand même une excellente fiche, ils ont un bon début de saison. Ils sont fait battre 4-0 à domicile, mais contre, selon moi, la meilleure équipe MLS, le LAFC. Donc, de toutes les façons, il n'y avait pas de relation de cause à effet entre l'expulsion de Rooney puis le score de 4-0. C'était déjà 3-0 avant l'expulsion de Rooney. Fait que, selon moi, il faut prendre avantage qu'il y aura leur arrière-droit qui va être absent parce qu'il y a une fracture. Il y a Rooney qui va être absent. Fait qu'on risque de voir notre ami Amariqua devant. Il faut prendre avantage de ça. Il fera peur à personne, selon moi. Il va courir beaucoup, il va déranger beaucoup. Mais ça, je pense que des joueurs comme Diallo et Raitala, ils peuvent gérer ça.
Est-ce que avec l'absence de Urruti qui va être sur le coup d'une suspension pour son rouge, avec également Nacho qui est absent, est-ce que tu prévois que Rémi Garde va toucher, modifier son schéma tactique ou plutôt conservateur, on devrait demeurer d'un 4-3-3, tu penses?
Ben, j'ai écouté le point de presse de Rémi Garde hier au Centre Nutrilé, là, quand ils sont revenus à Montréal.
Oui.
Puis un journaliste qui a demandé qu'est-ce que tu attends d'Anthony Jackson-Hamel dans le match de demain. Puis il a clairement dit c'est pas certain qu'il va être titulaire. Novio puis Orgy peuvent jouer devant et je peux changer de système. Il l'a répété à quelques reprises. Donc pour moi, je peux changer de système. Ça sous-entend qu'il y a une possibilité de voir une défense à 3. Je sais que
dans les
3-5-2, mais beaucoup de fans, y compris moi, je suis pas vraiment un grand fan du 3-5-2, mais je trouve que quand ton meilleur joueur est pas là, mais Piatti est pas là, Urruti est pas là, t'as pas beaucoup d'armes défensives. On a un début de saison sur 5 matchs, on a 2 victoires, 2 défaites, 1 match nul. Donc je me dis, si on part chercher un bon match nul à DC, jouer bien défensivement, un peu comme on a fait à New York, ça serait aussi une bonne tactique. Alors, de voir un trio Diallo au milieu avec Cabrera à sa droite, puis Raitala à sa gauche, puis les deux latéraux habituels, je ne serais pas surpris. Parce que sinon, hier, on parlait de Mathieu Choignard qui était revenu à l'entraînement, mais il revient tout juste de blessure. Je serais très surpris qu'il soit titulaire. Donc, à ce niveau-là...
Il ne devrait pas faire 90 minutes. Là.
Exactement. Donc, c'est sûr qu'Anthony Jackson-Hamel, on s'entend, ça n'a jamais été le grand amour avec Rémi Garde. Son entrée à Houston a été vraiment très moyenne, on va dire. Donc là, il vient de faire un bon 10 minutes à New York. J'en conviens, il a bien joué. Mais est-ce que ça va être suffisant pour que Rémi Garde le fasse commencer, sachant qu'il a une réputation d'avoir une crampe à la 60e minute, là?
Ouais.
Je suis pas certain. Donc, moi, là, des fois, je vois Anthony Jackson-Hamel, 50e minute, là, il est essoufflé. Donc, s'il n'a pas amélioré ce point-là, ça, j'en ai aucune idée, là. Je suis pas ses performances athlétiques, là. Mais s'il n'a pas amélioré ce point-là, puis que dans la tête à Garde, il ne peut pas lui donner plus que 60 minutes, ça se peut qu'il ne commence pas aussi.
Parce que, clairement, là, il y a quelque chose qui se passe entre, je ne sais pas si c'est entre Rémi Garde et Anthony Jackson-Hamel, mais on le voit, là, tu le disais tantôt, Rémi Garde semble mettre un bémol sur la possible présence d'Anthony demain. Anthony qui refuse depuis le début de la saison de parler aux médias, semble en avoir contre son utilisation. Mais, dans le fond, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on a confiance en ce qu'on produit à l'Académie de l'Impact? Parce que si je compare, on l'a dit, Anthony Jackson-Hamel a connu un bon 10 minutes au Yankee Stadium. En fait, une bonne rentrée, selon moi, mériterait des minutes. Et si on compare les résultats de l'Impact, si, par exemple, j'enlève de l'alignement Urruti pour placer Anthony Jackson-Hamel, est-ce qu'on a moins de buts Non. Est-ce qu'on est meilleur? Peut-être pas, mais je pense qu'on ne fait pas pire. Donc, on dirait qu'on a de quoi à pas vouloir mettre Anthony Jackson-Hamel. Est-ce que c'est peut-être un problème d'attitude? Là, on n'est pas dans le secret des dieux ni dans le vestiaire, mais clairement, il y a de quoi qui ne va pas entre la direction et Anthony Jackson-Hamel.
Je suis d'accord avec ça, surtout qu'il y avait des rumeurs au mois de janvier comme quoi il y avait un club de la Chine de deuxième division qui était prêt à prendre 100% de son salaire puis de payer une petite indemnité de transfert. Puis ça a l'air qu'on a vraiment insisté pour le garder. Après le camp d'entraînement, ça a l'air que le staff était satisfait de sa performance, mais ça ne se matérialise pas dans les faits, là. Je veux dire, ça sent que Rémi Garde n'a pas une confiance aveugle en Anthony Jackson-Hamel. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là, on espère que la roue va tourner pour lui parce qu'il a déjà connu des bons moments à MLS et déjà eu des super bonnes rentrées comme un super sub sous l'entraîneur Biello. Fait que je me dis, ce joueur-là est capable de la mettre dedans. Faut en profiter. Mais là, il va pouvoir le faire sous peu parce que s'il arrive à faire une bonne performance demain, peut-être que ça va mettre Garde sous la pression, puis il va se poser la question pour samedi, est-ce que ça va être Urruti ou Jackson-Hamel qui commence?
C'est ça, faut qu'il force la main un petit peu.
Faut qu'il force la main, puis c'est sa chance.
Parce que l'impression que ça me donne présentement, Amine, c'est que Anthony Jackson-Hamel est un joueur qui, de l'extérieur, là, ce que ça me donne comme impression, parce que je suis entraîneur, je sais comment ça joue un peu, on dirait que le joueur ne veut pas accepter le rôle que l'entraîneur est prêt à lui confier. Moi, je pense que dans sa tête à lui, c'est un joueur de 90 minutes sur le 11 partant, alors ouais. Que moi, je pense que Rémi Garde le voit plutôt comme un joueur de finition, de soutien, qui dit « Garde, donne-moi un bon 30 minutes à la fin d'un match quand j'ai besoin d'un but. C'est ça que j'attends de toi. » Puis on dirait qu'ils ne s'entendent pas sur cette vision-là.
Oui. Clairement, il y a un problème de perception de la réalité. Là, on dirait que Anthony Jackson-Hamel, il se voit plus gros qu'il l'est en ce moment. Oui, il a déjà prouvé qu'il était capable de marquer dans la MLS, mais il n'a pas prouvé qu'il pouvait être constant sur plusieurs matchs. Il n'a pas prouvé qu'il pouvait jouer 90 minutes. Alors, je me dis, des fois, on peut en vouloir à Garde de pas faire confiance aux jeunes, mais c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que plus qu'un joueur en donne, plus que l'entraîneur va lui faire confiance, puis ça va comme ça dans toutes les équipes. Et puis, même à un moment donné, quand on a eu Jack McInerney en essai, ça a l'air qu'il faisait la tête à l'entraînement au complexe Marie-Victorin. Mais ça, c'est pas la bonne attitude non plus, là. Je veux dire, si on te met de la compétition, c'est pour te pousser à être meilleur. Donc, tu dois le voir comme un défi et non comme un obstacle devant toi. Puis, à ce niveau-là, bon, c'est sûr que c'est sa dernière année de contrat. S'il performe pas, ben, ça va être très difficile pour lui qui est canadien de se trouver une autre place en MLS. Ça sera forcément dans une ligue moindre ou dans un autre pays.
Parce que c'est ça, c'est un peu le même problème qu'on a vécu là, avec Salazar, qui semble avoir été clairement moins patient, tout simplement, qu'Anthony Jackson-Hamel.
Exact. En espérant que la roue va tourner, il reste encore pas mal de matchs. Surtout, je me dis, le championnat canadien, il faut mettre 3 Canadiens sur le 11 partant. Ça commence bientôt, là, fait que si au moins il réussit à faire des petites apparitions en fin de match, satisfaisantes, comme il a fait à New York samedi, ben, peut-être que ça va être en championnat canadien que ça va débloquer.
Ça pourrait être super bon. Je veux qu'on revienne aussi sur Brown. Il y a des rumeurs, là, il n'y a rien de confirmé, mais tout semble porté vers là. L'Impact qui se sera entendu pour son arrivée. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou c'est il y a une fenêtre qui se présentait, on a un joueur à rabais ou à tout le moins à bon prix, donc à un moment donné tu te dis bon, on peut pas le laisser passer celui-là, ou on a vraiment besoin de ses services? C'est un joueur que je connais pas énormément.
Okay. Moi, la seule chose que je connais sur lui, c'est les deux matchs qu'il a joué en CONCACAF contre le Toronto FC. Oui. J'ai une bonne impression de lui, un joueur gaucher. On n'a aucun joueur dans l'effectif au niveau offensif qui est gaucher. Ça, c'est quelque chose de bien important parce que pour tirer les coups francs, un gaucher, c'est un plus. D'ailleurs, il a tiré un très beau coup franc qu'il a mis sur le poteau contre Toronto FC. C'est un gaucher, mais par contre, il joue sur la droite. comme beaucoup de gauchers d'ailleurs, là, donc il aime bien revenir vers le centre.
C'est ça, c'est plus facile de revenir dans l'axe.
Puis, ce qui me rassure avec lui, c'est que, bon, on a déjà eu pas mal de Antivero, Vargas, Venegas, tous des joueurs techniques, mais qui se sont jamais intégrés à la vie montréalaise ni à l'équipe, là. Mais Brown, je dirais que son plus, c'est que je vois qu'il est combatif puis capable de gagner des duels. Et que ça, c'est peut-être pour ça qu'on a accéléré la cadence puis que j'ai lu que ça va être un prêt avec option d'achat, c'est parfait. Parce que faut pas oublier un élément, quelqu'un qui vient du Panama ou d'un pays d'Amérique centrale, il arrive au Québec, c'est pas garanti qu'il va s'intégrer en 2 mois. Il y a des difficultés, il faut s'habituer à la langue, il parle ni français ni anglais. C'est pas si évident pour quelqu'un de s'adapter footballistiquement au niveau de la vie de tous les jours. On en a tellement vu des joueurs sud-américains prometteurs ici à Montréal, mais qui ça a rien donné, que je trouve le fait que c'est un prêt avec option d'achat, c'est parfait. On ne refera pas la même erreur qu'avec Vargas de payer le gros prix. Et finalement, ça n'avait pas donné grand-chose. Donc, je trouve que c'est un pari qui est moins risqué que d'habitude. Fait que, en sachant que présentement, on n'a pas beaucoup de profondeur sur les ailes, surtout un gaucher, moi, j'aime l'idée.
Moi aussi, c'est ça. C'est, moi, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est justement le fait qu'il soit gaucher. Je vois pas vraiment d'ajout en termes de performance, mais il va ajouter une profondeur qu'on n'a pas présentement et qui pourrait là, pallier certaines lacunes ou à tout le moins offrir des options supplémentaires à Rémy Garde. Donc là-dessus, ça pourrait être très bon.
Tout à fait. Fait que j'ai hâte de voir parce que là, il y a une date limite, je pense, pour la signature des joueurs.
Premier mai, je pense.
Ouais, vers le 8 ou le 9 mai, quelque chose dans le genre. Donc, 3 semaines pour régler un contrat, c'est quand même serré. Mais j'ai confiance que c'est pas mal avancé. S'ils ont déjà payé pour une place internationale, ça veut dire qu'ils sont assez confiants que ça se matérialise sous peu.
Ça, c'est bon. Pour le match, le match de demain, si j'y vais de ma prédiction personnelle, je te dirais que mon cœur souhaite un 2-1 Impact. Mais sincèrement, ouais. Si on sort du Audi Field avec un match nul, je vais être bien satisfait du résultat, compte tenu que ça va placer quand même là, l'Impact en bonne position. On sait que c'est un début de calendrier pas facile avec 6 rencontres à l'étranger. Ouais. Si on peut aller chercher un gros point là, moi je pense que en l'absence de Piatti, en l'absence de Ruti, ça sera déjà là, peut-être une victoire morale.
Exact. Surtout, faut pas oublier le dernier match qu'on a eu en fin de saison, ça a été catastrophique au Audi Field. C'était le match le plus important de l'année, puis on a eu vraiment une performance inacceptable là-bas. Azira il a dit qu'ils n'ont pas oublié ce match-là et qu'ils veulent avoir leur revanche absolument. Mais, encore une fois, là, avec 5 matchs à l'étranger, on a une fiche de 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Si on revient de Washington avec un autre match nul, mettons 1-1, ben on va être à 2-2-2. Donc 8 points en 6 matchs, ça serait plus qu'acceptable. Ça serait vraiment un très bon début de saison. Puis pour commencer la saison Stade Saputo, ça donnerait un boost de confiance aussi.
Je pense que oui. Donc, on va espérer que tout aille bien pour le 11 Montréalais. Je te remercie, Amine, de ta présence. Ça me fait...
Merci à toi, Jeff. C'est avec plaisir.
Excellent, ça me fait grandement plaisir. Donc, vous pourrez suivre le podcast sur Twitter. On est sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, que ce soit là, TuneIn, SoundCloud, iTunes, Spreaker... Spotify, Google Play, on est partout. Le site Internet s'en vient, je travaille encore là-dessus. Mais on vous livre ça dans pas grand temps, j'espère, d'ici la fin de la semaine. Donc, restez là, bien branchés. Jeff qui est avec vous et Amine pour le podcast BBN.